France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Éric Tabarly, Alain Colas, duel en haute mer. Protagoniste d'un duel légendaire, Éric Tabarly et Alain Colas incarnent à eux deux l'âge d'or de la course au large des années 70. D'un côté, Éric Tabarly, figure tutélaire de la voile française, pionnier de la navigation et architecte naval visionnaire. De l'autre, Alain Colas, son ancien coéquipier, qui s'impose vite comme un rival fougueux, ambitieux, devenu véritable personnalité médiatique. Après une décennie de rivalité, en grande partie entretenue par la presse, les deux grandes figures de la voile s'affrontent enfin sur l'eau lors d'une transat anglaise en 1976. Une course entrée dans la légende, autant pour la violence de ses tempêtes que pour son scénario rocambolesque, au terme duquel seul l'un des deux marins sortira vainqueur. Tabarly, l'institutionnel, Colas, le rebelle, on n'aime rien tant que les duels. Notre invité aujourd'hui, François Gabart, navigateur bien sûr, vainqueur de nombreuses courses dont le Vendée Globe et détenteur d'un record du Tour du Monde en solitaire, il est aussi ingénieur et concepteur de navires innovants. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Gaspard Vallu, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation François Audouin.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles sur France Inter.
Samedi 5 juin 1976, Plymouth, Royaume-Uni. Dans le petit port de plaisance du sud-ouest de l'Angleterre, une foule de curieux se presse dans les rues de la ville et sur les quais. Au large, des centaines de petites embarcations à voile et à moteur se fraient un passage entre les concurrents de la transat anglaise, ambiance des grands jours pour tous les amoureux de la voile. Cette quatrième édition de la déjà mythique transatlantique en solitaire, entre les côtes britanniques et américaines, s'annonce exceptionnelle. Cette année, ils sont 125 à prendre le départ, deux fois et demi plus que l'édition précédente. La flotte, elle, est d'une diversité jamais vue. De petits bateaux rudimentaires de 6,50 m, coquilles noix, naviguent aux côtés de trimarans trois fois plus grands et de monocoques bourrés de technologie. Course exceptionnelle aussi parce que les meilleurs navigateurs de la planète ont répondu présent. Michael Burch, Jean-Yves Terlin, Yves Fauconnier, tous rêvent de franchir en premier la ligne d'arrivée dans la baie de Newport, de l'autre côté de l'Atlantique. Pourtant, ce qui retient l'attention ce jour-là, c'est surtout le duel que deux marins d'exception, tous deux anciens vainqueurs de l'épreuve, s'apprêtent à livrer. D'un côté, la légende française de la course au large, Éric Tabarly. De l'autre, son ancien équipier et tenant du titre, le surdoué Alain Colas. Tabarly sur un bateau conçu pour naviguer avec une dizaine d'équipiers, Colas sur un quatre-mâts aux dimensions démesurées. Et ça fait des semaines que les médias français se délectent de cette première confrontation entre deux marins que tout semble opposer.
Pour cette transat, on dit qu'Alain Colas est en train de préparer un Boeing des mers. Qu'en pensez-vous ?
C'est un très grand bateau, c'est une expérience intéressante. Je sais pas. Est-ce qu'il y a besoin de 71 mètres ? J'en suis pas très sûr.
Cette transat, en principe, devrait être le premier affrontement entre Éric Tabarly et son élève Alain Colas. Est-ce qu'un marin appréhende ce genre de rendez-vous ?
Non, oh non. On court pour courir. De toute façon, dans les courses, il y a des concurrents. Hein. Et c'est pour ça que j'aime pas du tout le genre d'article qu'on publie actuellement. Il n'y a pas de défi de ma part pour Alain Colas. Alain Colas, bon, s'il fait cette course, il fera un concurrent comme un autre.
Hein. À la voile, on est tous des passionnés, on aime tous les mêmes choses. On les fait chacun avec du cœur et à notre façon. Il ne faut pas essayer de nous dresser les uns contre les autres.
Ce n'est pas un hasard si les journalistes jouent sur la rivalité entre les deux hommes. Parce que entre Tabarly et Colas, entre le maître et l'élève, entre le breton et le bourguignon, l'histoire est une régate très mouvementée.
Le lieutenant de vaisseau Éric Tabarly, à bord du Pendwick 2, a remporté aujourd'hui la course Plymouth-Newport et a battu le record de l'épreuve en 27 jours. Il a franchi la ligne d'arrivée à 13h54 GMT. Lorsque le Pendwick 2 a pénétré dans la baie de Newport, c'était du délire pour saluer la victoire du jeune breton. les bateaux-pompes lançaient d'immenses gerbes d'eau pour saluer ce diable de Frenchy. Il y a quelques instants, Philippe Bérard l'a rencontré pour nous.
Est-ce que vous attendiez à gagner cette course?
Au départ, j'avais beaucoup d'espoir. En cours de route, j'ai à peu près perdu tout espoir quand j'ai cassé mon pilote automatique.
Et ce matin, quand on vous a annoncé que vous avez gagné, vous avez été surpris vraiment?
J'ai été assez surpris, oui.
Qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant cette traversée?
Oui, j'ai pas manqué grand chose au fond.
Alors vous êtes un solitaire par nature?
Oui, quoique ce soit pas antisocial du tout, mais je me trouve en général assez bien seul de temps en temps.
Ce document sonore date de 1964. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée en premier lors de la Transat anglaise cette année-là, Éric Tabarly crée la surprise. Inconnu du grand public, ce jeune homme de 33 ans, officier de la Marine nationale en permission, parvient avec son navire Penwick 2 à déjouer tous les pronostics et à devancer de près de 2 jours la légende britannique de la course au large, Sir Francis Chichester. L'image de ce jeune marin barbu, Tabarly, au visage buriné par les ambres et aux yeux plissés de fatigue, entre dans la légende. Décoré de la Légion d'honneur, Tabarly multiplie les passages sur les plateaux de l'RTF et reçoit les félicitations d'un général de Gaulle, ravi de voir les Anglais battus sur les flots. Pour une fois. Un an plus tard, Tabarly bénéficie d'un détachement auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports pour se consacrer pleinement à la voile et préparer la suite, qui passe par la conception d'un nouveau navire. Avec le soutien d'un chantier naval de la Trinité-sur-Mer, Tabarly se met en tête de construire un bateau plus grand, capable de gagner de prestigieuses régates en équipage. Pour cela, il s'appuie sur ses milliers d'heures passées en mer et s'improvise architecte naval. Il revoit le profilage et la structure de la coque, qu'il imagine en alliage d'aluminium. Il affine le poste de barre et choisit un gréement en goélette avec 2 grands mâts. Cette nouvelle embarcation est mise en chantier au début de l'année 1966. Après 1 an de travaux, Penwick 3 est donc mise à l'eau sous les yeux de centaines de curieux, mais aussi devant des journalistes venus interroger le capitaine sur ce nouveau navire que beaucoup qualifient de révolutionnaire.
Là, au point de vue mensuration, il fait 17,45 m hors tout pour 13 mètres de longueur à la flottaison. Et ce bateau pèse 12 tonnes 2.
C'est léger.
C'est très très léger, oui.
Quel est le matériau employé?
C'est le Duralinox, qui est un alliage d'aluminium. Et c'est justement grâce à ce matériau qu'on arrive à construire un bateau aussi légèrement. Dans l'architecture, ce qui est surtout apparent, c'est que c'est une coque angulaire, ce qu'on appelle une coque à bouchin. Je pense que cette forme marche finalement assez bien. Beaucoup de gens n'y croient pas beaucoup, mais finalement, je crois que c'est bon, même pour des questions de vitesse et puis aussi de stabilité. Je dois être le premier bateau de cette taille fait comme ça.
Constituer son équipage pour les grandes courses à venir, Éric Tabarly recrute de jeunes marins, parmi lesquels son frère, mais aussi de futurs grands noms de la voile, comme Gérard Petitpas ou Olivier de Kersauzon. Entre le début du mois de juin 1967 et la fin du mois d'août, l'équipage prend part à 6 grandes courses du prestigieux Royal Ocean Racing Club. Il en remporte 6. Oui, 6 sur 6. Au fil des régates, Penwick 3 et son architecture novatrice démontrent l'étendue de ses capacités et finissent de convaincre les derniers sceptiques. Fort de cette incroyable moisson de médailles, le marin français décide de prendre part à une course mythique à l'autre bout du monde, la Sydney Hobart, en Australie. Jamais aucun navire français n'a remporté l'épreuve. Mais Éric Tabarly en est convaincu, avec Penwick 3, tout est possible. Le départ de la course est donné dans la baie de Sydney le 26 décembre 1967 et, comme lors des précédentes épreuves, Penwick 3 et son équipage écrasent tout sur leur passage. Le navire français est le premier à franchir la ligne d'arrivée au large de la Tasmanie après 4 jours et 4 heures de course.
C'est à 5h55 ce matin, heure de Paris, qu'Éric Tabarly est arrivé au port d'Hobart, qui est le terme de la course croisière Sydney-Hobart. Tabarly et son équipage à bord du Penduic 3 sont donc arrivés les premiers. Ils remportent donc l'épreuve au temps réel. À son arrivée, ce matin, Tabarly a naturellement été fêté comme il se doit, acclamation d'une foule nombreuse, klaxon d'automobile, et les journaux du soir australiens titrent tous sur Tabarly. Répondant aux questions des nombreux journalistes présents, Tabarly, avec son humour coutumier, a même conté qu'à son seul moment difficile fut celui où il heurta de la tête un mât de son navire. Le navigateur français en porte d'ailleurs des traces visibles.
Au sommet de sa gloire, Tabarly profite de sa présence dans le Pacifique pour effectuer une croisière en Nouvelle-Calédonie, avant son retour en France un mois plus tard, pour préparer la transat anglaise qui doit avoir lieu à l'été 68. Mais une partie de ses coéquipiers doit quitter le navire et rentrer en métropole. C'est alors qu'Alain Colas, un jeune professeur de français de passage en Australie, se propose pour compléter l'équipage. À 24 ans, Alain Colas n'a rien d'un équipier comme les autres. Originaire de Bourgogne, étudiant à Paris, c'est un terrien. Même s'il est fasciné par les récits des grands navigateurs, il n'a que quelques heures de mer à son actif. Mais grâce à son enthousiasme débordant, il parvient à convaincre Éric Tabarly de l'embarquer en tant que cuisinier à bord de Penwick 3. Ainsi, le jeune homme découvre-t-il la mer avec le vainqueur de la transat anglaise et ses plus fidèles compagnons, un must. Qui plus est, Colas côtoie un groupe uni et soudé. Et il compense son manque d'expérience par son écoute et sa volonté farouche d'apprendre. Prolixe, Alain Colas est aussi une personnalité à part à bord de Penwick. Les marins expérimentés écoutent amusés le novice développer ses idées pour le futur de la course au large. Il est le premier à leur parler de la nécessité de trouver des sponsors et de l'utilité de s'inspirer de sports populaires. À bord de Penwick 3, Alain Colas découvre aussi la dure réalité de la mer et traverse une violente tempête. Un épisode qu'il raconte quelques années plus tard sur un plateau de télé.
Et là-bas, en Nouvelle-Calédonie, lors d'une sortie vers les îles Loyauté, au large de la Nouvelle-Calédonie, nous nous sommes fait prendre dans un cyclone. Et un cyclone, c'est quelque chose de très difficile à décrire. C'est quelque chose de monstrueux qui vous rend tout petit. On est presque à la merci de ces éléments monstrueux. C'est un déchaînement. Même encore maintenant, parfois la nuit, je revois des images de cette épreuve. Et on s'en est sorti. Éric nous en a sorti. Penwick 3, bateau fantastique, nous en a sorti. Et bien sûr, ce sont des choses qui rapprochent.
Au terme de cette croisière dans le Pacifique, Alain Colas se forge une conviction. Lui aussi sera navigateur. Il rentre en France quelques semaines plus tard. Direction Lorient, où il retrouve Éric Tabarly sur le chantier de son nouveau bateau, Penwick 4. Cela fait des mois que le héros français de la course au large travaille sur les plans d'un trimaran révolutionnaire qu'il compte aligner au départ de la prochaine transat anglaise, dont le départ est prévu à l'été 68. Rare en compétition, il est pourtant persuadé que ses navires à trois coques disposent de capacités hors normes. Comme pour son précédent bateau, il mise sur des innovations importantes. Il construit un trimaran, oui, mais un trimaran radicalement différent des autres. 20 mètres de long pour 10 mètres de large. Coque et flotteur en alliage d'aluminium ultra léger. Des bras de liaison, plutôt qu'un plan fixe pour joindre les trois parties, et deux grands mâts. Sur le papier, Penwick 4 est un projet radical. D'ailleurs, les premières navigations laissent entrevoir des performances exceptionnelles. Et c'est donc confiant qu'Éric Tabarly se présente sur la ligne de départ de la transat anglaise le 1er juin 1968. Alors qu'il observe la silhouette de Penwick 4 s'éloigner, ce bateau que tout le monde surnomme déjà l'araignée des mers, Alain Colas se fait une promesse: la prochaine fois, il prendra le départ. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Tabarly Cola de Belle en haute mer.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Après avoir dénombré 6 forfaits au départ de la course transatlantique en solitaire, il faut maintenant compter les incidents de parcours et les escales forcées. Après 24 heures de course, le trimaran Penduic 4 est entré en collision avec un cargo au large des îles Sorlingue. C'est avec un flotteur déchiré et un mât endommagé que le solitaire français a dû rallier le port de Plymouth. Éric Tabarly était en tête de la course lorsqu'est survenue cette avarie. À son retour à Plymouth, il a expliqué cet incident.
A collision with a cargo boat during last night.
Lorsque l'accident est arrivé, j'avais un mât endommagé.
Parts of my rigging
et le flotteur a été abîmé.
How disappointed are you?
Êtes-vous très déçu? Oui, je peux dire que je suis assez désolé.
I am a little disappointed, yes.
Contraint à un abandon prématuré lors de cette transat anglaise de 1968, Éric Tabarly rentre à Lorient pour réparer son navire. Bien décidé à démontrer les capacités de son trimaran, il met rapidement les voiles pour un tour du monde en équipage et cette fois, Alain Colas est du voyage. Durant des mois, Penduic 4 sillonne les mers et océans de la planète et fait tomber plusieurs records, comme la traversée de l'Atlantique entre les Açores et les Antilles. À bord, Alain Colas a pris du galon. Il n'est plus un simple cuisinier. Aux côtés de ses marins expérimentés, il apprend à manœuvrer, à barrer. Il s'impose aussi comme principal relais de Tabarly auprès des médias. Il maintient soigneusement ses relations avec la presse, toujours friande des aventures du héros de la voile française. Il écrit lui-même de longs papiers, dans lesquels il relate les aventures de Penduic 4 et de son équipage. Plus le temps avance, plus le jeune marin entretient son rêve de prendre un jour les commandes de son propre navire. Eh bien, c'est Tabarly qui lui offre l'opportunité, malgré lui. En 1970, en effet, il est en grande difficulté financière. Rattrapé par les impôts pour des maladresses comptables, il est contraint de mettre son Penduic 4 en vente pour éponger ses dettes. Alain Colas saisit alors sa chance. Comme le raconte son frère, Jean-François, dans le documentaire de Grégory Magne, Tabarly Colas vend contraire.
Alain découvre avec étonnement Éric accroché à un écriteau avec « à vendre » et mettre ça au pied du mât. Et, alors ni une ni deux, Alain se précipite auprès d'Éric, se porte acquéreur, il n'a pas l'argent évidemment, mais il demande à Éric un délai.
La vente de Penduic 4 est actée. Alain Colas prend les commandes d'un bateau sur lequel il a navigué pendant près de 2 ans et dont il connaît évidemment les capacités. Son objectif est clair, s'aligner avec Penduic 4 sur la prochaine transat anglaise prévue à l'été 72 et surtout la gagner. Après un convoyage de son nouveau navire en solitaire depuis la Polynésie, le jeune skipper est de retour en France. Convaincu depuis des années de la nécessité pour les marins de faire parler d'eux pour gagner leur vie, Alain Colas multiplie les apparitions télévisées, les séances photos, les entretiens fleuves dans la presse écrite. Et il raconte avec panache et enthousiasme ses longues traversées, verse dans le lyrisme et l'euphorie. Là où son maître se montre réservé et peu à l'aise, lui excelle. Colas est furieusement moderne.
Une question qui vient aux lèvres, est-ce que vous avez eu peur ?
Maintenant j'ai peur si vous voulez, mais pas au moment, parce qu'au moment il faut se bagarrer. Ce qu'il y a, je dois dire une chose, c'est qu'il y a 2 jours, une fois que j'ai eu affalé les voiles, que j'ai relevé la dérive pour être chassé par les vagues, et que les vagues continuent encore à déferler et à être de plus en plus pentues et de plus en plus grosses, ben, je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait un bon Dieu, parce que humainement, moi, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus attendre que ça se passe.
Quels sont vos projets ?
Ce bateau, c'est une histoire d'amour et surtout l'histoire d'une idée fixe, courir la transatlantique en solitaire. Elle se court de Plymouth, Angleterre, à Newport, en Amérique. Ça représente 3000 milles. Le record, c'est 26 jours. Et moi, 3000 milles, dans l'océan Indien, je les ai torchés en 12 jours et 14 heures.
Alors, pronostic ?
Ben, ça sera rapide. Mais moi, mon bateau, ça fait 3 ans que je vis à bord. Ça fait 80 000 km que je passe dessus. C'est le prolongement de moi-même. Il fait partie de moi, ou je fais partie de lui, si vous voulez. Je sais jusqu'où je peux aller et après jusqu'où il ne faut plus continuer.
En seulement 2 ans, Colas parvient à s'imposer comme l'étoile montante de la voile. Lorsqu'il se présente sur la ligne de départ de la transat anglaise le 19 juin 72 au large de Plymouth, Beaucoup voient en ce novice de la course au large un favori. D'autant que Tabarly a déclaré forfait. Si ce n'est pas forcément l'autoroute, la voie est dégagée. Durant la course, Pendwick 4 démontre l'étendue de ses talents et de celui qui le barre. Malgré des conditions météo peu favorables, Colla parvient à se maintenir dans le groupe de tête. À mi-parcours, au beau milieu de l'océan Atlantique, il réussit même à doubler l'autre favori de la course, Jean-Yves Terlin et son voilier géant, baptisé Vendredi 13. Le 8 juillet, après 20 jours et 13 heures de mer, Colla arrive en tête dans la baie de Newport. Au terme d'une course au rythme effréné, le jeune navigateur de 29 ans pulvérise le précédent record qu'il améliore de plus de 5 jours.
Joie aussi pour le vainqueur de la course transatlantique en solitaire. 8 ans après, Éric Tabarly, un autre Français, a remporté cette course. Il s'appelle Alain Colas et chose curieuse, c'est sur le bateau qu'Éric Tabarly avait fait construire pour la précédente course en solitaire, le trimaran Pendwick 4, que Alain Colas a réussi, ce qui doit être considéré, Thierry Roland, comme un très grand exploit.
Non seulement Colas est arrivé bon premier à Newport, puisque le deuxième voilier n'a pas encore franchi la ligne, mais encore il a pulvérisé le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire, record qui était de 26 jours. Alain Colas est parti le 17 juin dernier de Plymouth, en Angleterre. Il est arrivé à Newport, en Nouvelle-Écosse, hier soir, 7 juillet, à 20h15, heure locale, soit 1h15 ce matin, heure de Paris. Le temps officiel qu'a mis Alain Colas pour traverser l'Atlantique est donc de 20 jours, 12 heures et 15 minutes. C'est sans doute le départ d'une grande carrière de navigateur, puisqu'hier, Colas a rejoint son modèle.
Alors qu'Alain Colas fait la une de la presse, Éric Tabarly, lui, travaille activement sur son nouveau navire. Pendwick 6, le dernier de la lignée, est un grand voilier de 22 mètres, avec une coque en aluminium et une quille en uranium appauvri. Conçu pour accueillir un équipage de 14 marins, il doit permettre à son skipper de s'engager sur une toute nouvelle compétition, la Whitbread. Cette course autour du monde en équipage et par étapes doit être celle de la rédemption pour un Tabarly dont les médias n'ont désormais de cesse d'opposer à son ancien équipier Alain Colas. Le départ de la première étape entre l'Angleterre et le Cap, Afrique du Sud, est donné le 8 septembre 1973. Mais Alain Colas, qui pourtant ne participe pas à cette course, attire une nouvelle fois la lumière. Car ce jour-là, il se lance dans son propre tour du monde en solitaire. Une tentative de record qui doit suivre le tracé emprunté par les concurrents de la Whitbread. Un moyen aussi de se donner de meilleures chances de sauvetage en cas de pépin et de médiatiser sa tentative. En tout cas, beaucoup y voient un pied de nez à son ancien mentor. Et pour cause, Alain Colas a repeint en noir l'iconique coque argentée de son navire. Et il l'a rebaptisé Manureva, abandonnant le nom de Pendwick 4 et l'héritage encombrant de ce concepteur. Encore une fois, le succès sourit à Alain Colas. Alors qu'Éric Tabarly et son équipage sont contraints de changer de mât à Rio après une avarie, lui file tout droit vers Sydney, où il arrive bien avant les monocoques engagés dans la Whitbread. Après une escale commune, tous repartent d'Australie en direction de l'Europe. Et le sort continue de s'acharner sur Pendwick 6. Le navire subit d'importants dégâts. Éric Tabarly décide d'abandonner. Alain Colas, lui, boucle son périple en 169 jours. Il est maintenant le solitaire le plus rapide autour du monde. Populaire, omniprésent dans les médias, le skipper de Manureva est au sommet de sa gloire. Pour Tabarly, c'est une autre histoire. Critiqué de toutes parts pour ses récents échecs, il subit aussi les questions des journalistes qui s'interrogent sur le financement de ses coûteux projets. Le militaire détaché, qui bénéficie encore de l'aide de la Marine nationale, fait l'objet de violentes critiques. Pire encore, lorsqu'on l'interroge sur la performance d'Alain Colas, beaucoup notent chez le marin une certaine amertume, voire un manque de fair-play.
Éric Tabarly, on a dit qu'il y avait eu un certain nombre de différends entre vous et Alain Colas. Est-ce que c'est exact ?
Oui, il y avait eu pas mal de différends entre nous deux parce que, à l'origine, il voulait essayer de comparer le tour du monde qu'il faisait lui à ce que nous faisions nous, avec un règlement et tout ça. Donc, à mon avis, il fallait pas comparer des choses qui ne sont pas comparables.
Mais vous considérez que la performance de Colas, qui d'ailleurs, par parenthèse, naviguait sur un de vos anciens bateaux, sur Pendwick 4, est quand même bonne techniquement?
Bah, c'est très difficile de juger, parce que justement...
Non, mais
quand on a personne contre soi, eh bien, est-ce qu'il est allé vite, est-ce qu'il n'est pas allé vite? Moi, j'en sais rien.
Le duel Tabaricola est sur toutes les lèvres. Tout le monde attend maintenant une course entre les deux hommes. Ce sera la Transat anglaise de 1976. Et pour cette édition, l'un et l'autre se lancent dans d'ambitieux projets. Comme à son habitude, Tabarly planche sur un nouveau navire révolutionnaire. Cette fois, c'est sur les plans d'un trimaran comme ceux qui équipent les navires d'aujourd'hui que l'expérimenté marin travaille. Un concept de bateau volant qui laisse entrevoir des performances exceptionnelles. Les premiers essais sur une embarcation à modèle réduit font sensation. Mais le temps passe et Tabarly peine à réunir les fonds nécessaires pour concrétiser son projet. De son côté, Alain Colas planche également sur un nouveau bateau. Et lui aussi souhaite laisser sa marque et concevoir un navire innovant. Pour ce projet, il peut compter sur le soutien de nombreux sponsors, dont Gilbert Trigano, patron du Club Med. Des moyens financiers importants qui permettent à Colas d'imaginer une embarcation à la hauteur de ses ambitions démesurées. Bardé de nouvelles technologies, le futur navire d'Alain Colas, baptisé Club Méditerranée, mesure 72 mètres de long et ne compte pas moins de 4 mâts de 33 mètres de haut. Un projet insensé, déraisonnable même pour la plupart des navigateurs en solitaire. Mais pas pour Alain Colas. Éric Tabarly, lui, ne trouve toujours pas de partenaire pour financer son projet. Dépité, il rejoint alors l'équipage de Penduick 6. En mer, la résignation laisse vite place à la détermination. Il ne trouve pas de financement, il s'alignera avec son monocoque de 22 mètres. Et tant pis si son navire est conçu pour être manœuvré par un équipage de 14 personnes. Dans les mois qui suivent, lui et ses équipiers s'entraînent d'arrache-pied et préparent le bateau. Si Tabarly connaît une préparation mouvementée, Colas va lui aussi faire face à un événement qui risque de compromettre ses chances de concourir. Alors qu'il rentre d'une sortie à bord de Manureva, au large de la Bretagne, l'une des voiles de son trimaran se bloque. Dans la manœuvre pour tenter de stopper son bateau, son pied droit se coince dans le cordage de l'ancre. L'accident est inévitable.
Dans 13-14 aujourd'hui, le premier récit, le premier témoignage d'Alain Colas lui-même, Henri Charpentier, l'envoyé spécial de France Inter à Nantes, a rencontré il y a tout juste quelques instants Colas. Première question, évidemment, comment ça va?
Je me serais bien pensé de commettre une erreur aussi enfantine en mouillant mon ancre.
Vous avez fait une fausse manœuvre, personnellement, vous en êtes conscient?
Oh oui. C'est une manœuvre qu'on fait des centaines, sinon des milliers de fois à bord d'un bateau. Et j'ai pas fait attention que j'avais mon pied de prix dans une glaine de filin. Et le pied est parti avec. J'avais mon couteau avec moi, j'ai pu sectionner à temps. Ce qui fait qu'il restait encore des petits bouts qui collaient au pied. Alors ça m'a laissé espoir que ce soit recollé.
La transatlantique, prochain objectif quand même?
Oh, je vais m'accrocher, je ne peux pas en rester là.
L'accident aurait pu lui coûter un pied, mais Colas ne renonce pas. Et il bénéficie toujours du soutien de ses sponsors. À un an du départ de la course, il croit donc toujours en ses chances. Durant les mois qui suivent, il subit une vingtaine d'opérations. Et c'est en béquille et claudiquant qu'il s'affiche lors de la mise à l'eau de son gigantesque 4 mâts. Les semaines qui suivent sont un contre-la-montre, et pour Tabarly et pour Colas. Les deux hommes sont pourtant bien présents le 5 juin 72 au départ de cette nouvelle édition de la Transat anglaise. Malgré le grand nombre d'engagés et la profusion de candidats au titre, ce sont bien les skippers de Penduick 6 et de Club Méditerranée qui sont au centre de l'attention médiatique. Le départ est donné dans une forte houle et les marins savent que les conditions météo des prochaines semaines s'annoncent dantesques. Pour preuve, des dizaines de participants sont contraints à l'abandon dès les premiers jours de course. Et deux d'entre eux périssent en mer. Alain Colas vit un début de traversée difficile. Encore handicapé par sa blessure, il peine à manœuvrer son immense navire de 72 mètres. Les tempêtes à répétition endommagent son club méditerranéen qui ne peut plus naviguer à pleine capacité. S'il continue de se montrer optimiste durant ses communications radio, Colas sait très bien que ses chances de victoire sont minces. Tabarly, lui aussi, peine à dompter son Pendrixis. Les vents violents, la houle et les trombes d'eau qui s'abattent sur le pont rendent chaque manœuvre longue, difficile. 72 heures après le départ, son pilote automatique casse. Conscient qu'il lui reste un océan à traverser, il hésite à faire demi-tour. Dans son livre « Mémoire du large », il revient sur ce tournant de la course.
Au petit matin, dans un décor d'apocalypse, le vent monte encore à 60 nœuds et les vagues se chevauchent. Je venais de m'échiner pour amener la grand voile, en y mettant toutes mes forces. Peu après, je fais une découverte. L'hélice de ma génératrice de secours est perdue. Désormais, je n'aurai plus de courant pour alimenter mon pilote automatique. Physiquement, je suis épuisé par les manœuvres, les heures à la barre, les nuits blanches et le froid. Trempé et frigorifié, je me sens moralement découragé. Ma décision est prise. Je vire de bord et je fais route au sud-est. Je ne me leurre pas. J'ai quasiment abandonné. Toutefois, avant que ma décision soit définitive, je décide de me reposer pour avoir les idées plus claires. Cette nuit-là, je ne remonte pas mon réveil. Lorsque je refais surface, il est déjà tard. Après ces heures de repos, je vois la vie et la course sous un angle meilleur. Et il n'est plus question de renoncer. Cette fois, je fais route sur la côte américaine.
Tant bien que mal, Tabarly reprend la route de l'Ouest, bricolant un système de maintien de cap avec une corde accrochée à sa barre. Une solution rudimentaire, certes, mais qui lui permet de trouver un peu de repos. Dans une course, les balises GPS n'existent pas encore, chacun tente d'évaluer sa position. Échange radio avec les équipes à terre, communication interceptée, tout est bon pour savoir où en sont les concurrents. Après une dizaine de jours de course, Alain Colas, dont le navire est en piteux état, entend dire que Tabarly se trouve près des côtes du Canada, à quelques jours seulement de la ligne d'arrivée. Persuadé qu'il ne peut plus gagner, il décide alors de faire une escale technique à Terre-Neuve pour effectuer une rapide réparation. Les jours passent, Éric Tabarly n'arrive toujours pas à Newport. Et il n'a pas donné de signe de vie depuis des jours. Et pour cause, sa radio est cassée. Mais sur Terre, l'inquiétude monte. La marine nationale est dépêchée pour tenter de retrouver la trace de Pendrixis en vain. Au courant, Colas croit de nouveau en ses chances de doubler. Le 29 juin, quelques jours après son escale, il envoie un message et annonce son arrivée dans les 24 heures. Mais dans la nuit, après 23 jours et 20 heures de course, ce sont bien les voiles blanches de Pendrixis qui émergent dans la brume. Éric Tabarly franchit en premier la ligne d'arrivée et remporte le duel tant attendu face à son ancien équipier.
Bonsoir. Tabarly. Oui, Tabarly a gagné. Tabarly, on le croyait naufragé. La marine française avait décidé de partir à sa recherche et pourtant c'est lui qui gagne la course transatlantique en solitaire. En solitaire et en silence. À 11h ce matin, heure française, mais en pleine nuit à Newport, alors que tout le monde dormait et que tout le monde en fait attendait pour la journée d'aujourd'hui le grand quatre-mâts d'Alain Colas, eh bien c'est le vieux catch noir de Tabarly qui a franchi la ligne d'arrivée. Il venait de passer un peu moins de 24 jours en mer. Tabarly, 45 ans, pépé pour ses intimes, c'est du panache, du caractère, et quelque chose de bourru sur un bateau à voile.
Arrivé 7 heures seulement après Tabarly, Colas accuse le coup. Dupé par la fausse annonce de la présence de son principal concurrent près des côtes canadiennes, il sait qu'il aurait pu remporter cette course. Sur Terre, l'un et l'autre sont assaillis par les journalistes. Si les sourires sont de mise, l'ambiance entre les deux marins est glaciale. Ils ont traversé les mêmes mers déchaînées, ont affronté les mêmes tempêtes, mais ils n'échangent pas un mot, non, même pas un regard. Alain Colas annonce déjà son envie de revanche et donne rendez-vous à son rival dans 4 ans. Pour Tabarly, en revanche, cette victoire est synonyme de rédemption. Accueilli en héros en France, il descend les Champs-Élysées où des milliers de Français viennent le célébrer. Dans les mois et les années qui suivent, il retrouve l'appui des sponsors pour développer son trimaran et prendre part à de nouvelles compétitions. Alain Colas, lui, doit faire face à ses créanciers. Club Méditerranée entame donc une tournée des ports français. Le voilier géant devient une attraction touristique et ne dispute plus aucune course. 2 ans après son échec dans la transat anglaise, Alain Colas repart pour une nouvelle course sur l'Atlantique. À bord de son voilier Manureva, il prend le départ de la toute première édition de la Route du Rhum. Mais son trimaran en aluminium, à bord duquel il a réalisé tous ses exploits, est en piteux état. La coque est rouillée, les nombreux trous sont colmatés à l'aide de rustines de fortune. S'il parvient toutefois à faire un bon début de course, Colas, pourtant habitué aux communications avec les journalistes, ne donne plus signe de vie après son passage au large de l'archipel des Açores. Les jours passent et le silence radio perdure.
Les recherches pour retrouver Alain Colas, Jean-Luc Hesse, ont été officiellement arrêtées aujourd'hui.
Oui, effectivement, le ministère de la Défense précise tout de même que les services de la Marine nationale restent en alerte et que des missions ponctuelles seront organisées en fonction des informations recueillies. Il faut dire qu'un effort exceptionnel a été accompli depuis la fin de la course du Rhum. Une partie importante de l'aviation de patrouille maritime a été mobilisée, là, sans résultat. L'espoir, évidemment, est très très mince maintenant de retrouver Alain Colas.
Interrogé quelque temps plus tard sur la disparition de son ancien équipier, Tabarly fait preuve de retenue, semblant mettre de côté ses différends avec lui. Il sait bien que la mer est cruelle, et il en fera lui aussi l'expérience en juin 1998, lorsqu'il disparaît en mer d'Irlande, lors d'une traversée organisée pour le centenaire de son tout premier bateau, Pendwick 1.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Tabarly Colas, duel en haute mer, formidable aventure dont nous allons parler avec un spécialiste, un connaisseur, évidemment, François Gabart. Bonjour.
Bonjour.
Navigateur, vainqueur de nombreuses courses, dont le Vendée Globe, détenteur d'un record du monde en solitaire, vous êtes aussi ingénieur et concepteur de navires innovants. Alors, il s'agissait, Tabarly et Colas, de deux marins très différents. On dit que Tabarly a fait découvrir la course au large aux Français et que Colas l'a professionnalisé. Qu'en pensez-vous ?
En tout cas, je pense qu'Éric Tabarly a eu un poids dans la course au large telle qu'elle est aujourd'hui qui est juste extraordinaire et énorme, et je pense qu'il a formé beaucoup de marins et son héritage est énorme. Alors je pense qu'Alain Colas, et on le voit bien dans ce résumé, a apporté probablement beaucoup d'énergie. Il y a mis beaucoup d'énergie. Il a probablement amené ce côté sponsoring peut-être qui fait partie aujourd'hui évidemment de la course au large. Mais voilà, ils ont tous les deux contribué à ce qu'est la course au large aujourd'hui. Mais je pense qu'Éric, la comparaison est difficile parce qu'Éric a, je pense, est un peu partout et beaucoup plus présent dans tous nos bateaux et dans ce qui a été construit et sur les bateaux sur lesquels on navigue aujourd'hui.
Alors, évidemment, vous n'avez pas participé aux courses des années 60 et 70 que nous avons racontées. Quel regard vous portez sur cette époque de la voile ?
C'est fabuleux parce que c'est vrai que c'est une époque incroyable. C'est le début vraiment de la course au large moderne. C'est les premières courses, les premières transats en solitaire. Le tour du monde en solitaire qui reste quand même quelque chose d'extraordinaire, qui devient peut-être un petit peu plus classique aujourd'hui. Maintenant, on est en période de Vendée Globe. On fait ça de plus en plus. Mais à l'époque, le Vendée Globe n'existait pas. C'est déjà faire le tour du monde en solitaire, c'était quelque chose de vraiment du domaine de l'aventure totale. C'était des pionniers. Et c'est vrai que je trouve ça génial de pouvoir me replonger dans ces années-là et qui ont évidemment, comme je disais tout à l'heure, ont marqué et ont lancé ce qui est aujourd'hui la course au large moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui en 2024.
Alors, j'aimerais que nous revenions maintenant sur Éric Tabarly, l'ingénieur, concepteur naval, ce que vous êtes aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'il était pionnier dans cette recherche d'innovation permanente ?
Ah oui, alors là, évidemment, c'est vrai qu'Éric a, comme je disais, a marqué l'histoire architecturale de ces années-là et toutes les innovations et les inventions qui ont été amenées sur les différents Pendwick qui existent encore aujourd'hui dans nos bateaux actuels, tant sur les matériaux qu'il a utilisés, alors qu'il aujourd'hui sont peut-être un peu dépassées, mais qui à l'époque étaient incroyables. Puis après, être visionnaire comme ça, justement, sur ce pain du 4, qui a aussi marqué l'histoire d'Alain Colas, mais sur ce pain du 4 qui était un multicoque, quand à l'époque, ça restait quand même assez incroyable. Il a déjà été visionnaire sur les bateaux volants à une époque où on en était très très loin, mais lui, il avait déjà ça en tête, qu'un jour les bateaux voleront, et il a insufflé des idées, des visions qui aujourd'hui sont omniprésentes dans nos bateaux. Toute la course au large, tous les marins aujourd'hui, je pense qu'on a la chance de faire partie de cet héritage et d'avancer dans le sillage de grands marins. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui fait la différence avec Eric, peut-être en comparaison justement avec Alain Colas, c'est son héritage. C'est qu'il a énormément marqué la course au large et il a beaucoup transmis. J'ai eu la chance de beaucoup naviguer avec des marins qui ont excellé avant moi. Je pense par exemple à Michel Desjoyeaux, mais il y en a beaucoup aujourd'hui ici en Bretagne, je pense à Jean Le Cam. Il y a des marins avant, Olivier de Kersauzon évidemment, et tous ces marins ont appris avec Éric Tabarly. Et Alain Colas fait partie de ces marins qui ont appris avec Éric Tabarly. Et je pense que ça le dépasse peut-être, mais il a évidemment beaucoup transmis autour de lui. Et on en est, alors moi pas directement, j'ai jamais eu la chance de naviguer avec Éric Tabarly, mais j'ai eu la chance de naviguer avec des marins qui ont côtoyé Éric Tabarly. Mmh. Et voilà, et petit à petit, il a essaimé quelque part dans la course au large. Et on a eu la chance d'apprendre des choses qui ont été quelque part probablement un petit peu... il y a un peu d'Éric dans beaucoup des marins d'aujourd'hui.
Je ne vous ai pas posé la question qui tue, est-ce que vous êtes plutôt Colas ou Tabarly ? Je ne vous la pose pas parce que j'ai, à travers tout ce que vous m'avez dit, j'ai la réponse.
France Inter. Affaires sensibles.
François Gabart, il nous reste quelques minutes. Si nous parlions de vous, vous avez gagné la Transat Jacques Vabre, le Vendée Globe, la Route du Rhum, vous détenez aussi le record du monde en solitaire et sans escale en 42 jours, à bord de votre précédent Maxi Tribaran, c'est le plus beau palmarès qu'on connaisse. Hein. Et là, vous vous apprêtez à partir pour le trophée Jules Verne. Vous dites un mot de cette course ?
Ouais, c'est un record, c'est pas une course, c'est le tour du monde en équipage, à la voile, sans escale, le plus rapidement possible. C'est un record qui est assez incroyable, qui existe maintenant depuis plus de 30 ans, et dont les règles sont extrêmement simples. Hein. C'est essayer de tourner à la voile autour de la planète le plus rapidement possible. Je trouve que c'est un défi qui est absolument génial. J'ai eu la chance de faire deux bouts tours du monde par le passé, un sur le Vendée Globe, course du moment et course assez incroyable. Hein. Cette course en solitaire, en monocoque, sans escale, c'est une course, on est l'un contre l'autre, mais on part dans une forme de contrainte, c'est-à-dire qu'on part à une heure donnée, quelle que soit la météo, alors que là, voilà, sur le Jules Verne, on va essayer de choisir la meilleure fenêtre météo pour essayer de battre ce record. Et le record, il est de 40 jours, c'est Francis Joyon qui le détient. C'est pas simple, nos bateaux ont énormément progressé depuis quelques années. Néanmoins, c'est un record qui est difficile à battre parce qu'il faut, il faut évidemment bien naviguer, il faut évidemment avoir un bateau rapide, il faut avoir un équipage qui connaît bien son bateau, qui arrive à le mener à son plein potentiel tout au long de ce tour du monde. Et puis il faut avoir aussi un petit peu de chance, un peu de réussite, parce qu'il faut que la météo soit bonne jusqu'à la fin. Et je trouve ça assez beau parce que dans un monde qu'on essaie de tout maîtriser, il y a une petite part d'immaîtrisable, d'incontrôlable dans un trophée Jules Verne et qui rend l'exercice difficile et très beau pour cela aussi.
Est-ce que vous allez passer par cet endroit infernal où passe le Vendée Globe au sud de l'Australie, près des icebergs ?
Cet endroit infernal est incroyable, c'est les mers du sud, c'est cet endroit du monde, les mers australes où on a peu l'occasion d'y aller, nous marins, mais ça reste un privilège. On y va souvent lors des tours du monde, donc on n'y va pas tous les jours. C'est un endroit du monde qui est incroyable, qui est évidemment pas anodin. C'est loin de tout. On est dans des endroits où les tempêtes peuvent être très fortes. Alors nous, on y va pendant l'hiver européen, donc pendant l'été austral, donc les tempêtes sont bien moins fortes. On a la chance d'avoir des bateaux qui sont rapides aujourd'hui, avec des prévisions météorologiques qui nous permettent d'éviter le gros de ces coups de vent. Mais ça reste un coin où il y a des grands surfs, des endroits où on arrive à faire des vitesses incroyables sur de nombreuses journées, parce qu'en fait, il n'y a pas de terre. C'est un endroit où il n'y a que de la mer autour de la planète. On fait le tour du monde. Et en fait, les vagues et les tempêtes tournent autour de l'Antarctique sans forcément être arrêtées par des continents. Et pour nous, marins, c'est un terrain de jeu qui est incroyable et extraordinaire.
Vous serez combien sur le bateau ?
On sera 6 à bord du trimaran SVR Lazartig. Donc, je navigue avec Tom Laperche, avec lequel j'ai fait nombreuses courses en double ces dernières années, et ensuite avec Amélie Grassi, Pascal Bidégory, Antoine Gauthier et Émilien Lavigne. Donc on sera 6 à embarquer sur le trimaran pour ce défi.
Alors nous avons appris ici à Faire Sensible, il y a un peu plus d'un an, même 2 ans je crois, que certains skippers emportaient avec eux des podcasts d'Affaires Sensibles. Ça nous a beaucoup touchés.
Eh bien, merci de nous offrir justement ces podcasts. C'est vrai que moi, depuis que je fais de la course au large, et peut-être en particulier encore plus en solitaire, on écoute de la musique, on écoute des podcasts, et ça nous accompagne sur nos tours du monde. Donc en effet, les Affaires Sensibles et toutes les émissions, moi j'avoue que je peux faire de la promo, mais je suis assez fan des podcasts de France Inter. Donc Le Temps d'un Bivouac aussi m'a beaucoup accompagné lors de mes aventures maritimes.
Eh bien écoutez, ne changez rien, François Gavard. Merci infiniment.
Beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le duel Tabarly-Collard, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau.